Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité.
Oui, Jacques Grimaud et Patrice Pouyard sont avec nous ce soir pour parler de ce documentaire, La révélation des pyramides. On a mis pas mal de photos sur la page Bob vous dit la vérité. Il y a Philippe tiens, qui vous pose une question. Philippe qui est un fidèle qui anime souvent le Facebook et qui dit est-ce que c'est vrai qu'il y aurait des salles immenses sous le plateau de Gizeh qui auraient permis de fabriquer certains matériaux et le sphinx, y a-t-il quelque chose en dessous?
Jacques. Il y a des textes qui l'affirment, notamment Jean Blic, donc quelqu'un qui était bien placé, puisque c'était un prêtre, il était plus près de la vérité que d'autres. Maintenant, pour aller sous le sphinx, c'est très cher.
Ouais.
C'est 3000 euros la visite d'une heure.
D'accord.
Enfin, c'était cela à l'époque de Zayawas qui était remplacé. Mmh. Mais il n'y a rien à voir parce que la probabilité, c'est que ces choses-là ont été remises à zéro au moment où l'Égypte sacrée a pris des dispositions compte tenu du changement d'air. J'explique les airs, enfin Patrice dans le film explique les mois précessionnels de 2160 ans. Les Égyptiens, qui étaient parfaitement calés dans ce genre de computation, savaient que leur civilisation s'achevait. Et ils ont pris les précautions pour cela. Ils ont noyé certains souterrains, ils ont éboulé certains souterrains ou rendu, comment dire, improductifs. Ils n'ont rien laissé qui soit à quelques détails près. Mais le détail est tellement immense que j'attendrai d'en parler par voie de cinématographie.
Ouais, j'espère bien.
Mais j'en reviens un mot parce que c'est alléchant.
Hein,
le plus grand musée d'Égypte est l'un des plus grands musées du monde, peut-être l'égale dimension que notre musée du Louvre, va être construit et mis à disposition. Mais ils ont rencontré des gros problèmes à l'endroit qu'ils ont choisi, parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose en dessous. Ils ne savent pas quoi. Et ça, le problème reste. S'il y avait des Égyptiens à l'écoute, ils devraient se renseigner. Alors attention, en Égypte, c'est quand même quelque peu dangereux. Il faut être extrêmement prudent.
Ah ouais? Pourquoi?
Ah bah parce que, comment dire, le sujet est très chaud. Il y a énormément de monde sur la planète qui s'intéresse à cela.
Jacques, la question que j'ai envie de te poser, c'est de se dire, c'est celle-ci, c'est est-ce que le gouvernement égyptien sait et veut garder ce qu'il sait pour lui, parce que ce qu'on va découvrir, ça fait tout tomber dans son histoire, etc. Ou est-ce que lui n'a pas les moyens, même lui n'a pas les moyens d'aller découvrir et d'envoyer des équipes, etc. Parce que j'imagine que t'es quand même dans un pays qui est un musée à ciel ouvert. J'imagine que les gens du monde entier peuvent avoir des financements pour aller découvrir.
C'est pas ça le problème, c'est que l'Égypte, si c'est le centre de l'équateur penché, que ceux qui connaissent le film ont bien la mémoire, le problème c'est que la résolution ne se fait pas par l'Égypte seule, il faut connaître le reste. Et je pense pas que les gens qui ont étudié ces problèmes l'aient fait autrement que de manière local et ponctuel, ce qui fait que j'ai une avance très très importante là-dessus. D'autre part, la première fois que j'étais allé en Égypte pour enquêter sur mes découvertes, j'avais remarqué qu'il y avait du bouillonnement littéralement des agences de renseignement de tous les pays qui viennent là-dedans. Je me souviens d'un film très rigolo avec Jean Dujardin là.
OSS.
Voilà, c'est ça. Le Caire, enfin bon, peu importe, ni d'espions. C'est exactement cela. Et au sujet de la Grande Pyramide, on a en réalité tous les ans une quinzaine d'équipes qui viennent pour essayer de détecter tout le délire qu'on trouve sur Internet. La réalité, c'est ça. Il y avait eu professeur Alvarez, prix Nobel de médecine, qui était venu avec 15 tonnes de matériel pour savoir s'il y avait d'autres chambres dans les grandes pyramides. Résultat, néant. C'est-à-dire que la grande pyramide et ses copines ont refusé l'investigation physique. Les résultats étaient délirants.
Il y a une chose, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui a eu les clés du site et des antiquités égyptiennes pendant très longtemps. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement aujourd'hui, mais en tout cas, il a bloqué beaucoup, beaucoup d'initiatives. Il en a favorisé certains pays, plus les États-Unis que la France, par exemple, l'égyptologie européenne. Alors après, c'est des problèmes d'ego. Il y a des tas de choses qui rentrent là-dedans, des problèmes de politique, parce que les Français ont fait beaucoup en Égypte et lui, il a jamais donné d'autorisation, enfin, jamais beaucoup d'autorisation pour tester des choses. Parce que, par exemple, l'hypothèse des pierres et agglomérées qu'on pourrait vérifier assez facilement et on pourrait répondre à la question tout de suite en faisant des analyses, ça n'a jamais été autorisé. Donc il y avait aussi, ça tenait à la personnalité de cet homme qui est un homme extraordinairement influent, qui était un homme influent et qui a pu fermer et tenir tout ça sous clé pendant plus de 25 ans. Donc,
on va balancer un petit peu. Lorsque Patrice et moi étions en Égypte, pour que Patrice voie ce dont je parlais dans mes petites notes
et puisse le filmer.
Et voilà, surtout heureusement qu'il l'a filmé parce que c'est c'était pas facile, c'était à nos frais d'ailleurs. Eh bien, on a écrit à Farouk Hosni, ministre de la culture locale, et on n'a pas eu de résultat parce que Zahi Hawass, directeur des antiquités égyptiennes, s'y est opposé. Or, Farouk Hosni était aux États-Unis, il a dit, mais moi je vous envoie un hélicoptère, vous faites ce que vous voulez dès que c'est possible, mais résultat, néant.
D'accord.
Voilà. On a, si on devait comptabiliser les empêchements qu'on a eus, on pourrait écrire un dictionnaire, que ce soit de la part de l'individu dont on a parlé, j'en profite, et que les difficultés locales, plusieurs fois on a failli se faire confisquer le matériel entièrement, plusieurs fois on était littéralement sous les armes des gardiens des
sites. Ouais.
Oui,
ça a été chaud, quoi.
Oui,
le tournage en Égypte a été beaucoup de choses ont été faites de manière clandestine parce que parce qu'en fait on a pris le risque parce que c'était le seul moyen d'obtenir des images parce que pour filmer la Grande Pyramide pas telle qu'on avait envie de la filmer, on nous demandait plus de 6 millions de dollars parce que c'est ce que payent les Anglais quand ils viennent faire leur documentaire. Ils peuvent s'installer, font des beaux panoramiques avec le soleil et tout, mais nous ce qui nous intéressait c'était de filmer la chaussée à côté, c'était de filmer les abords,
ce que
etc.
les gens ne voient pas d'ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'ils font pas attention, il y a la chaussée justement à côté, voilà, c'est ça, ils prennent leur pique-nique et tout, ils sont sur un truc incroyable,
c'est
quoi,
un réservoir de mystère cet endroit-là.
Ouais. Bah,
il faut savoir déjà que la pierre qui
c'est
constitue,
une dalle, hein, on l'explique,
c'est un dallage donc constitué de plusieurs pierres taillées qui sont très finement jointives, mais la pierre, c'est de l'amphibolite, c'est beaucoup plus dur que le fer. Donc les gens qui viendraient, et alors le mystère premier, c'est que le soubassement, c'est du calcaire beaucoup plus tendre.
C'est un puzzle en trois dimensions.
Voilà,
c'est une chose extraordinaire. Voilà,
on nous pose des énigmes. J'avais montré à Patrice la première fois que nous sommes allés ensemble le fait que dans certaines pyramides, si l'on observe, il y a des petites pierres à la base, et les grosses pierres sont à quelques étages au-dessus. Quelques assises.
J'aurais pu faire le contraire,
c'est
moins
sûr. Patrice, pourquoi faire ça compliqué?
Non, mais il y a aussi un truc qui est assez incroyable quand on regarde le film La Révélation des Pyramides, c'est que on s'aperçoit que d'un côté, que vous êtes dans un couloir, il y a une certaine forme de pierre à gauche, et c'est exactement la même forme de pierre à droite.
Voilà, c'est pas décarré.
Pas avec le même nombre de pierres.
Mais c'est le même dessin.
Se faire chier à avoir cette symétrie visuelle, en tout cas.
Ouais. Alors, en fait,
personne n'a remarqué avant que j'en ai fait la remarque. Patrice a insisté, il a raison. Parce que ça, tout le monde pourrait le voir s'il était attentif. On arrive là-dedans, on visite l'Égypte comme on visite les Galeries Lafayette.
Mais tu peux pas manger des hot dogs et puis regarder les pierres.
C'est trois quarts d'heure sur le site de Gizeh.
Surtout quand on devient ce qu'on mange.
Voilà. c'est trois quarts d'heure sur le site de Gizeh ou une heure. On n'a pas le temps, c'est immense. Donc on va vite voir la pyramide, photographier sa femme devant la pyramide. Et puis ensuite on descend au temple du Sphinx.
Et puis les gens font pas là pour ça en plus. Hein, c'est souvenir de vacances, quoi.
Non, ils font plein de choses.
Mais ça devrait être montré sur place. On devrait dire, regardez ça. C'est une énigme.
Mais même par un guide en disant, regardez comment on était fort, etc. Parce que ça mettra en valeur en plus les.
Alors en fait, il y a des guides. Guides qui le montrent, il y a des guides qui tiennent des discours un petit peu différents. La chose là-dedans, c'est que en fait, moi je voulais montrer, parce que l'hypothèse, on disait, c'est simple, les formes, les blocs, ça pourrait être comme des briques, c'est-à-dire toutes faites à peu près pareil, en tout cas avec des angles droits, ça serait plus facile à assembler, plutôt que d'avoir des blocs avec des formes complexes, parce que ça veut dire qu'il faut retailler, c'est des pierres qui sont extrêmement dures. Donc l'hypothèse qu'on donne habituellement, c'est de dire, c'est normal, ils ont pris les blocs qui sortaient tels quels, ils les ont à peine retaillés, puis ils les ont posés, ils les ont assemblés pour économiser de la matière. Mais quand on voit qu'on a des motifs qui sont en regard sur un couloir ou à d'autres endroits, parce que c'est un petit peu partout qu'on voit ce genre de choses, à ce moment-là, ça montre qu'on a la volonté de faire des motifs, ça veut dire qu'on choisit les blocs, et ça ne veut plus dire que c'est au tout venant. Donc ça veut dire qu'on sait faire les blocs.
Des blocs qui sont à 900 km de là, quand même.
Ouais, c'est du granit.
Ouais.
Alors en fait, quand nous, on met du crépi sur les murs, eux, ils mettent des blocs de granit qui font plusieurs dizaines de tonnes.
Je vais décorer, tiens.
Et simplement pour masquer des murs qui font. C'est des blocs qu'il faut. Alors on ne se représente pas bien ce que c'est qu'un bloc de 200 à 300 tonnes de calcaire, mais c'est un truc immense, c'est beaucoup plus grand que la pièce ici. Moi j'essaye de faire des comparaisons dans le film, alors c'est difficile, mais pour remettre à l'échelle et montrer.
C'est facile à faire, mais c'est 2 tonnes 5 par mètre cube. Voilà. Donc,
c'est pas beaucoup plus facile à faire.
Prenez n'importe quel volume, vous calculez le volume de n'importe quel appartement et vous verrez, c'est la moitié.
Non mais je te parle plus, Jacques. Donc, je parle à Patrice.
C'est pour ça que je suis arrivé. Alors
exactement.
Moi, pour montrer cette chose qu'il est en train de dire, je me mets debout devant un bloc et comme ça on voit.
Et tu fais le rapport en fait. Voilà.
De Berlin, voilà ce que ça pèse.
Oui, alors c'est bien parce qu'en même temps vous prenez le c'est vrai, le référent des berlines. C'est-à-dire que ça c'est. Alors de nos jours, bien sûr, vous êtes quelques-uns à remettre en cause l'origine des pyramides, mais ça doit pas être simple parce que on nous a vendu quand même ces conclusions. Écoutez.
D'un coup, je compris le problème. Tout ceci avait été fait avec des moyens simples parce que c'était là. Et que ça datait d'une époque où on n'avait que des moyens simples. Donc le fait que ce soit là prouvait que c'était possible de le faire avec des moyens simples.
Voilà. Et à quel moment on est pris pour des cons?
Et ben en fait, on ne sait tout pas si c'est au début ou à la fin, parce que comme c'est un cercle et ça tourne, c'est
maternelle.
Tout le temps.
Oui, ouais. C'est ça, ouais.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui prononce les paroles juste avant, qui permettent de mettre ce commentaire, c'est Eric Gontier, c'est un géologue qui nous a accompagnés. Au début, on ne lui a pas dit exactement ce qu'on allait faire là-bas. Pour pas qu'il se pose trop de questions. Et on lui a dit qu'on avait besoin d'un géologue pour authentifier les pierres. C'est ce qu'il a fait. Quand Jacques, tout à l'heure, vous parlait d'amphibolite, vous trouvez nulle part que la chaussée qui est à côté, qu'on appelle une chaussée de basalte, est en fait de l'amphibolite. Et il y a plein de pierres comme ça où les égyptologues se sont trompés parce qu'en fait, ils connaissent pas les pierres, ils n'ont pas fait appel à des géologues. Et lui, quand il est arrivé là-bas, il est arrivé avec la connaissance qu'il avait des sites anciens, de l'histoire de l'Égypte et tout ça. Il a commencé à regarder et au bout d'un moment, il s'est rendu compte très naturellement qu'il y avait un énorme problème et qu'effectivement, il n'était pas en mesure d'expliquer le travail qui était fait, qui est un travail extraordinaire. Alors, à un moment, on le voit, on est dans une espèce de réservoir, c'est Abydos. On a des blocs qui sont parfaitement taillés et qui sont sans ciment, c'est ce qu'il insiste dessus. Mais parce qu'en fait c'est toujours pareil, c'est facile de parler de la pierre, mais le jour où vous prenez de la pierre et vous essayez de la sculpter et puis d'assembler des blocs, même le fer en polystyrène, quoi. Moi j'ai fait, et je le montre un moment dans le film, on le fait avec des blocs de polystyrène et on essaye de les faire s'assembler avec des formes complexes, extrêmement difficiles. Donc avec des pierres qui sont énormes et qu'on a du mal à tailler parce qu'à l'époque on a des burins,
là,
bah oui,
voilà.
Des burins ou du cuivre, alors la méthode des coins de bois, etc. Ouais. Ça explique pas cette précision d'assemblage.
La révélation des pyramides au cœur de cette émission ce soir. On y revient dans un instant, mais pour l'heure, il faut faire nos courses. Et une fois qu'on aura rempli le frigidaire, on sera là avec vous. C'est Ado, c'est toute la vérité. À Paris 97.8, à Toulouse 93.1 et bien sûr partout en France via le site de la maison.
Toute la vérité avec Bob. 21h minuit sur Ado.
Ah, c'est à moi ?
Mais oui, c'est à toi.
Non, parce que vous voulez dire une chose, c'est qu'on continue la discussion.
Oui, c'est ça, je t'entends pas monter, moi je suis tout seul derrière mes boutons.
Mais parle quand je suis pas là, moi. Je suis en train de manger des gâteaux, je discute avec Jacques. Ouvre les micros à Jacques, c'est vachement bien.
Allez,
tu vois.
Alors,
Jacques Grimaud et Patrice Poyard est avec nous, donc on parle de ce film, La Révélation des Pyramides. Ça remet tout en question, en tout cas, si vous prenez le soin d'aller regarder ce film, vous serez scotché par le travail déjà qui a été fait. C'est incroyable. On va continuer à dérouler le documentaire. On va s'arrêter sur le pyramidion, qui est en fait la pointe qu'il devait y avoir sur la pyramide de Gizeh, hein, c'est ça ?
Hypothétiquement.
Écoutez, c'est le son 21. Il me regarde avec des yeux.
Le pyramidion était une maquette de la grande pyramide. Même son découvreur ne l'avait pas remarqué. En fait, ce pyramidion était très probablement la pointe de la grande pyramide qu'on n'avait jamais retrouvée.
Alors, si j'ai choisi ce son, c'est que dans le film, il est montré qu'à un moment donné, vous venez à une certaine époque.
En 2005, oui.
Voilà, il y a une image, et puis vous revenez, en fait, il a une certaine forme. Vous revenez quelques temps plus tard.
En 2008.
Ouais, il a changé.
Il a changé.
Et pourquoi ?
C'est la question qu'on peut se poser. Ouais, alors on était content d'être venu le filmer en 2005 et il avait été découvert par Rainer Stedelmann qu'on interroge dans le film. On l'avait mesuré, mais il avait fait les mesures lui aussi. Le pyramidion.
Rainer Stedelmann, le pyramidion. Hein.
Donc dans les mesures, on était raccord, c'est-à-dire que c'était bien 1m57 sur 1m de hauteur. Et puis quand on est revenu, alors on avait fait des belles images, on était très content. Et quand on est revenu en 2008, et ben là ça a été la surprise parce que personne n'était au courant, pas même Rainer Stedelmann. Quand on lui a posé la question et on lui a dit est-ce que vous saviez qu'il avait été restauré, ben non, il savait pas qu'il avait été restauré.
Mais c'est la grande manip derrière, il y a des gens qui manipulent tout ça.
Alors moi je vais donner une explication, Jacques, on donnera probablement une autre. Il y a aussi des histoires de budget, c'est-à-dire qu'il faut faire des choses, il faut alimenter la pompe. C'est un peu comme souvent on a des gens qui font tourner les moteurs pour vider l'essence pour en avoir autant l'année d'après.
Ou les opérations de chirurgie.
C'est une autre histoire.
Je balance de l'huile sur le feu.
C'est sympa, les petites piques comme ça qui peuvent faire rebondir très loin. Ouais. Mais en fait,
pas de digression, Jacques.
Donc en fait, voilà, il suffit qu'il y ait un type qui a envie de. Parce qu'il y a malheureusement, à cette époque-là, il y avait encore, je sais pas, j'espère que ça change, mais il y avait beaucoup de corruption là-bas. Et donc il suffit qu'il y ait des gens qui ont envie de sortir un petit peu d'argent. Il faut justifier, il faut trouver des trucs à faire. Tiens, ce machin-là, là, qui sert à rien et qui est au pied de la pyramide, tu vas me le remonter et faire 2-3 trucs dessus qui justifient une subvention internationale.
Sauf que les mecs, ils pensent pas qu'ils sont en train de toucher quelque chose de fondamental qui peut avancer depuis
longtemps. Non, et c'est ça la chose, c'est que.
Je vais le peindre.
Oui, voilà.
J'ai un peu de blanc, je vais le peindre.
Mais ils auraient pu le peindre, ils ont fait à Saqqara, ils ont bétonné. C'est horrible. Il y a un moment, on arrive sur le site de Saqqara, ça ressemble à un parking avec des colonnes de béton et tout. C'est monstrueux d'avoir fait ça. Et la chose, c'est de dire que, quand je montre ça dans le film, c'est clairement pour dire attendez, si vous savez pas, n'y touchez pas. Laissez les choses telles qu'elles sont. Ça avait été restauré, c'était parfait, c'était posé sur quelque chose, c'était bien fait, le travail avait été bien fait, il n'y avait pas besoin de faire quelque chose en plus.
Alors, il y a quelque chose qui est très important, et c'est vrai qu'on en avait, on avait un petit peu abordé le sujet ici, lorsqu'on avait parlé pour la première fois des pyramides. C'est quelque chose que votre informateur, à savoir Jacques Grimaud, parce que dans le film, c'est l'informateur secret, mais nous, on l'a découvert, alors on vous dit toute la vérité ici. Ah,
c'est pas vrai, je suis venu de mon propre.
Écoutez bien ce qu'il dit.
Il dépliait une carte tout en disant
« La ligne qui va de l'île de Pâques à Gizeh est une partie d'un cercle de 40 000 km de long. »
Soit la longueur de notre équateur terrestre.
Voilà, là encore une fois.
Alors ça c'est une des choses qui m'a mis vraiment par terre, parce que ça je le savais pas. En revanche, ça c'est dans le tournage. Alors ce que je montre dans le film, là je fais le jeu avec ma femme qui me prête sa voix pour expliquer. J'ai un petit peu scénarisé la manière dont ça s'est passé, mais globalement ça s'est passé comme ça sur les 10 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois on a joué des choses, Jacques me donnait des faits, je les vérifiais, et puis ensuite ça rebondissait, on allait un peu plus loin, et c'est un peu cette chose-là que j'ai décrite, parce qu'il voulait pas que je prenne pour argent comptant ce qu'il me donnait, il voulait que je me l'accapare, c'est-à-dire que je le vérifie, que je puisse le tester, je puisse le défendre, je puisse le montrer dans un film et trouver la manière de le montrer, la manière la plus accessible qui soit. Et donc quand je fais le film et quand je raconte ces choses-là, c'est vraiment le processus intellectuel qui s'est mis en place. Et à la base, je le répète, moi, la chose qui m'a poussé, c'est la découverte mathématique de Jacques et derrière, la manière dont le dossier était traité. Voilà, c'est vraiment les deux choses. Et je parlerai, je sais que je vais me faire taper sur les doigts pour dire ça, mais je parle de malhonnêteté intellectuelle. Parce qu'à un moment, en fait, je me rends compte, et vous le voyez sur Internet, les gens qui circulent sur Internet vont le voir, il y a des tas de gens qui disent c'est n'importe quoi, ça veut... et il y a des internautes qui les prennent à partie et qui disent mais pourquoi c'est n'importe quoi? Dites-nous. Quels faits sont, et là, mais il y en a trop, ça servira à rien, j'ai pas le temps de faire ça, il sait n'importe quoi. Si vous croyez ce genre de choses, c'est que vous êtes un amateur de science-fiction.
Ah, mais on a ça tous les jours, nous, dans l'émission, donc voilà, fatalement.
Mais jamais personne ne prend la peine, et quand on leur dit, et j'ai vu quelqu'un qui mettait un commentaire en disant, mais attendez, la pyramide a 8 faces, oui ou non? Et le gars dit, bah oui, il me dit, bah, pourquoi on n'en parle pas? Et si elle a 8 faces, c'est quand même une complexité architecturale, comme c'est dit dans le film, c'est vraiment une difficulté énorme, parce qu'il faut gérer ce renfoncement qui sert à rien. Et pourquoi on n'en parle pas? Bon, on n'en parle pas parce que c'est comme les vases, qu'on s'en fout, ça n'a pas d'intérêt. Oui, elle est creusée. Bon, bah, c'est pas. Et ça indique l'équinoxe, mais non, c'est un hasard.
Oui, c'est ça, c'est qu'elle voilà. est pas, c'est pas fait pour rien, c'est que ça indique l'équinoxe. Hein,
quand bah oui, bah oui.
Et puis, cet informateur secret vous révèle quelque chose de fantastique concernant le sphinx. Concernant le sphinx, là c'est incroyable, c'est 25 le son, si tu cherches, Mathieu.
Je l'ai.
Que je le sens paniquer, écoutez.
Mon informateur m'expliqua que le site de Gizeh fonctionne comme une horloge astronomique dont le cadran est marqué par 4 étoiles. Le regard du sphinx forme l'aiguille de cette horloge, qui fait un tour sur elle-même en un peu moins de 26 000 ans. Et permet donc de repérer avec précision la position de la Terre dans ce grand cycle.
Voilà, alors moi je suis dans mon fauteuil là, et là je suis parti, quoi. C'est l'histoire, c'est-à-dire que là je pars, c'est une sublime histoire, ça. Cet alignement, en plus c'est vachement bien fait dans le film, voilà, ça, c'est juste grandiose, quoi.
Ça, alors ça, c'est, là on est dans le terrain des hypothèses, hein. Je prends vraiment la peine, parce que j'ai cette phrase, on l'a ciselée pour bien expliquer, ok, vous avez vu des faits pendant tout ce temps-là, maintenant on va quitter le...
Et vous le dites, hein, dans le film,
ah, oui,
maintenant on va aller sur le terrain de la théorie. Voilà, en tout cas.
Plus incertain des suppositions et des hypothèses.
Mais
parce
la
que dans
la squeeze ça.
Voilà, la version anglaise a retiré ça.
C'est
donc
dommage.
Elle dit globalement la version anglaise. La version anglaise dit maintenant il est temps pour vous de découvrir la vérité. Donc elle nous fait passer pour des porteurs de lumière et de vérité, alors que moi je me garde bien de faire ça. J'essaye de rester honnête et prudent jusqu'à la fin. Donc je présente ça comme une hypothèse. Simplement cette hypothèse a le mérite d'être extrêmement réaliste. Et la chose c'est que c'est effectivement un calendrier astronomique. Alors que ce soit voulu,
c'est plausible. Enfin,
ça,
c'est
ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne.
Il y a plusieurs démonstrations possibles qui seront données dans les films ultérieurement pour couper la tête des négateurs systématiques. Ces gens qui confondent le doute méthodique et le scepticisme systématique. Donc moi j'ai gardé des munitions pour protéger Patrice parce que c'est lui qui est au devant de la chose. Tout à l'heure, ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il a tremblé très souvent devant mes affirmations et parce que je lui donnais pas les éléments pour vérifier parfois. Et je me souviens quelquefois de colère homérique disant ouais, tu te rends compte, tu m'as foutu ma carrière en l'air, ma famille en l'air. Voilà. Et il dit la vérité, c'est vrai, parce que j'ai été obligé d'être extrêmement prudent parce que la moindre fuite pouvait modifier la portée des choses et nous faire fermer la porte ou remettre en question, etc. On a fait des choses par exemple qui paraissent inutiles. utiles au moment où on les a faites, mais qui seront utilisées dans les films suivants, parce que j'ai préféré prendre les devants comme je l'avais fait avec Patrice en allant au Pyramidion. Parce qu'il y a des choses qui sont déformées, etc. Moi, mon opinion, elle est très simple. On a fait virer le Pyramidion parce qu'on l'a vendu tout bêtement.
Ah oui.
Voilà, pour moi, c'est parce qu'il y a un collectionneur, il a dit, je veux ça. Il y a 100 cm, 1m57, je veux savoir ce que c'est.
Je veux ça chez moi et terminé.
Voilà. Voilà, mais il est en retard sur le truc, parce que tôt ou tard, ça va sortir ces choses-là.
Alors, on vient sur l'horloge, parce qu'il faut expliquer. D'accord. Pour ceux qui n'ont pas
oui,
vu le film.
Oui, parce que c'est l'heure, là. Hein.
Alors, l'horloge, donc le sphinx, serait en fait une grande horloge, en fait. Et les yeux du sphinx. Hein.
Le regard du sphinx, c'est-à-dire l'axe formé par le corps du sphinx, ce serait c'est l'aiguille. Et donc ça permet de repérer la position de la Terre dans ce grand cercle. Alors la précision des équinoxes, c'est un peu compliqué. Ça veut dire que si on regarde, qu'on vient voir une étoile au mois de juin par exemple et qu'on prend son relevé, si on revient 72 ans après et qu'on reprend son relevé, on aura l'impression qu'elle se sera déplacée d'un degré.
D'accord.
Et en fait il lui faudra à peu près en moyenne 25 920 ans pour faire un tour complet. Alors en fait le ciel n'a pas bougé, c'est simplement la position relative de la Terre, parce que c'est ce qui est extrêmement complexe là-dedans, c'est qu'on est dans de la géométrie qui est en trois dimensions, qui est courbe
et tout
est en mouvement puisque tout tourne autour de tout, donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver et à partir de là on se rend compte que bah oui, ça montre ces aires là. Alors c'est utilisé aujourd'hui par les astronomes parce qu'ils s'en servent pour repérer des positions, donc en fait la découpe du ciel comme ça de manière zodiaque, ça fait penser tout de suite aux gens à l'astrologie, c'est utilisé aujourd'hui par les astronomes, ils se servent des aires, c'est un zodiaque qui est un petit peu différent parce qu'il est rétrograde, il tourne dans l'autre sens. Mais en fait, la chose, c'est que selon les anciens, on va dire qu'on a des espèces de grandes saisons, des grandes périodes, et c'est ce que décrivent les Mayas par exemple, mais ils ne sont pas les seuls, il y en a plein d'autres. On a des grandes périodes, des grands âges, et en fait, ces grands âges seraient déterminés par la position de la Terre dans l'espace à un moment donné. Quoi.
Parce que ça annonce quelque chose de pas très très bon quand même cette horloge.
Tu m'en serais bien passé.
Vous le faire à la manière des astronomes. Ce que c'est que la précession des équinoxes, c'est très simple, c'est la rétrogradation du point vernal dû à la parallaxe céleste.
Voilà, au revoir. Au revoir.
Ça
justifie
de perdre 200 000.
Ça justifie mon travail.
Comment on empêche la chose? Grâce à Patrice, ce genre de langage est passé comme une vieillerie insalubre. La vérité est très simple. Il faut d'abord connaître ça pour l'observer dans le site. Ça, c'est les problèmes. Les égyptologues ne sont pas des astronomes, les astronomes ne sont pas égyptologues. Ça, c'est le truc. C'est pourquoi il a fallu extrêmement longtemps. Et moi, je ne me suis pas fermé à l'expression des anciens. Je me suis dit, tiens, ils parlent un langage qui n'est pas le nôtre, mais ils ont des raisons pour cela. Ce qu'il faut, c'est que je les découvre. Alors, j'aperçois, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de femmes à l'écoute. Je vais parler du zodiaque des astrologues. Ça va faire plaisir aux astrologues, c'est très tranquille. Il y a un axe vertical. Au sommet, c'est le Capricorne et en bas, c'est le Cancer. Maîtrise du Capricorne, Saturne et maîtrise du Cancer, la Lune. Mmh. On observe simplement que la Lune, c'est l'astre dans le sens grec, c'est-à-dire la chose qui erre, la plus proche chose de la Terre, Saturne la plus éloignée qu'on puisse voir.
D'accord.
En même temps, la Lune, c'est la plus rapide. Et Saturne la plus lente. Donc il y a une logique là-dedans. Ça c'est un seul exemple, mais je pourrais en donner une centaine d'autres. Parce que c'est une modalité intellectuelle beaucoup plus précise qu'on imagine, mais qu'on refuse de la même manière qu'on refuse la possibilité de faire des pyramides avec pi et phi. C'est du même ordre. La réalité c'est que cette chose-là, je vous engage, étudiez-la avec les yeux d'un astronome, quelqu'un qui regarde et comprend le ciel. C'est un mélange de choses solides et de choses à interpréter.
Alors, ce sphinx, donc l'alignement, c'est une grande horloge, 26 000 ans à peu près. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe tous les 26 000 ans? Parce que si cette horloge est là, c'est pour annoncer quelque chose. Et c'est un peu une théorie, moi, qui m'a un peu refroidi.
Bah, hein. Oui, moi aussi, comme je dis dans le film, je me serais bien gardé d'aller jusque-là, parce que j'aurais bien aimé rester sur le côté glamour de tout ça.
Bien sûr.
Malheureusement, ça fait partie du travail, et... les textes, eux, parlent de rénovation, c'est-à-dire à mi-partie de ce cycle. Donc tous les 13 000 ans, il se passerait quelque chose. Un coup par l'eau, un coup par le feu. Donc on peut supposer que la fois précédente, c'était par l'eau et que cette fois-ci, ça sera par le feu. Donc c'est ce qui est évoqué là. Maintenant,
quand tu dis ça, c'est une grande catastrophe qui va rayer dont on va être les victimes.
Ah bah c'est un cataclysme.
Astronomiquement, c'est peu de choses, mais pour la Terre, c'est majeur.
C'est un cataclysme planétaire. Mais la chose, c'est qu'on a rencontré nous, un scientifique ensemble, qui lui est peut-être une des personnes sur la planète qui en parle le plus en détail de ce problème-là. Et lui, il est pas du tout, c'est pas du tout par la pyramide et le site de Gizeh qu'il est arrivé à ses conclusions. Il n'a pas voulu figurer dans le film parce qu'il a dit, vous êtes des gens de la télé, vous allez m'interroger pendant 2 heures et puis vous allez retenir 3 phrases qui sont sensationnelles et qui
vont fiche la trouille.
Voilà. Et qui fiche la trouille à tout le monde. Et donc je veux pas me prêter à ce jeu-là parce que effectivement son travail est assez perturbant parce qu'on se rend compte que le pôle sud magnétique a accéléré sa course, parce qu'on se rend compte qu'il y a une accélération des problèmes sur la planète climatique, les tsunamis, les inondations, il y a des tas de choses.
On le voit
et c'est un peu partout. Donc est-ce que l'homme est en partie responsable de beaucoup de choses parce qu'on accélère un processus, mais est-ce qu'on serait pas en train d'accélérer un processus naturel, auquel cas on est encore en train de scier encore plus vite la branche sur laquelle on est assis. Et moi, ce que j'ai voulu là-dedans, c'est vraiment interpeller les gens pour qu'on prenne à partie les scientifiques, pour leur dire, alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, en vérité, les gens qu'on a rencontrés, il y en a un qui le dit, Fontune le dit dans le film, ils n'ont pas de budget. Parce que ce qui s'est passé il y a 13 000 ans, qui pourrait nous permettre de comprendre ce qui risque de se passer maintenant, on a que très peu d'idées là-dessus, en fait. Et puis les gens ne sont pas d'accord parce qu'on est resté encore à cette opposition qui existait il y a 150 ans entre, d'un côté, les déistes créationnistes, donc qui disaient que c'était Dieu qui était à l'origine de tout, et puis les athées évolutionnistes qui disaient que non, c'était le hasard, toutes les choses s'étaient mises en place. Et on a l'impression que c'est toujours le même combat, alors c'était il y a 150 ans, ce qui est dérisoire. Et il y a des tas de choses comme ça qui sont en fait une vieille problématique là qu'on a aujourd'hui.
Ouais. Alors, il y a plusieurs récapitulations dans le film pour qu'on comprenne bien. On est à 1h30 de cette discussion, je propose d'écouter une récapitulation, écoute ça.
Récapitulons. Sur tous ces sites, on trouve des pierres très lourdes aux formes complexes, assemblées avec une précision millimétrique, des préoccupations astronomiques, des datations supposées et surtout, aucune indication sur les moyens de construction.
Eh ben voilà, on est dans la merde.
C'est
exactement ça.
C'est pour toi là, je crois.
Oui, non, mais moi c'est ce qui m'a le plus fasciné parce que c'est ça. Je me suis dit, ben voilà, en fait finalement, mais... On est désarmé face à tant de hasard qui n'est pas du hasard, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on nous dit ça c'est du hasard, ça c'est du hasard, ça c'est du hasard. Il faut arrêter de nous prendre pour des abrutis. À un moment donné, il faut quand même que, heureusement qu'il y ait des gens comme vous, je le dis sincèrement, hein, qui à un moment donné prennent leur caméra, avec tous les problèmes que ça engendre, on en a un petit peu parlé, et j'espère qu'ils vont se résoudre.
C'est 10 ans de boulot. Hein,
voilà, 10 ans de boulot, quoi. Et dans le film, on dit 37 ans d'investigation pour Jacques, hein, l'informateur, c'est quand même un boulot monstrueux, monstrueux, monstrueux. Et on voit que là, quand on regarde ce film, on se dit, ouais, voilà, on nous dit, bah si c'est là, c'est parce que c'est là, et voilà, bah non, mais en fait, finalement, si tout est aligné, bah c'est le hasard, etc. Alors, ce qui est intéressant, puisque rien n'est laissé au hasard dans votre film, c'est que vous êtes allé, ça c'est le son 27, Mathieu, vous avez mené votre enquête sur l'île de Pâques également, parce qu'on s'aperçoit que sur la planète, il y a plein de monuments comme ça, qui pourtant les civilisations ne se connaissaient pas.
Elles ne peuvent pas se connaître, par rapport à la théorie officielle, elles ne peuvent pas se connaître parce que les dates ne sont pas les mêmes. La civilisation égyptienne, c'est pour la Grande Pyramide, moins 2700 et quelques, alors que l'île de Pâques, c'est peut-être au 5e, au 9e, au 12e.
Voilà. C'est daté comme ça, mais en fait, on ne peut pas dater la pierre.
Sauf qu'il y a un point commun, c'est tous ces blocs de pierre, encore une fois, que les gens ont pu redresser, on se demande comment ça a pu être fait, etc.
On a l'impression que c'est facile.
Qui viennent à des centaines de kilomètres aussi.
Moi, pour avoir vu ces sites de très près, je peux vous dire que c'est totalement incompréhensible parce que.
Et pourquoi sont-ils tournés vers la mer aussi? Alors ça,
Il y a trop de problèmes. Faut pas trop se casser la tête. Le plus important à repérer, en fait, je parle pour moi parce que c'est comme ça que j'ai découvert l'équateur penché. Comme j'avais compris que les gens de la pyramide, les concepteurs, fonctionnaient sur un mode intellectuel fondamental et représentatif de l'univers, j'avais compris qu'ils parlaient de manière polarisée. Ils nous montrent des cercles grâce à des droites. C'est assez délirant, hein, puisqu'on voit que les cercles permettent de trouver la vitesse de la lumière. Ils parlent des coudées en se servant des mètres, ou à l'inverse, des constantes pour parler des coudées et des mètres. Enfin, c'est leur manière. Et j'avais repéré dans le fameux travail napoléonien, quand on revient de l'équipée napoléonienne, il y a 18 ouvrages qui constituent une grande collection. Et c'est un polytechnicien qui a fait ça. Et il dit simplement, de l'Égypte ancienne, que c'était le carrefour du monde. Et avec raison, c'est entre l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe et l'Asie. Et donc c'est en réalité l'endroit le plus central. Et j'avais noté que des astronomes avaient fait remarquer que si on divisait la surface émergée des terres en quatre parties, tôt que ça tombait sur le site de Gizeh. Je me dis, donc, si je comprends bien la mentalité de ces gens-là, ils ont placé ça comme le nez au milieu de la figure, au milieu du monde, pour que tout le monde le voit, mais personne ne comprend.
Voilà.
Donc c'est une énigme qui nous
est soumise. Et comment savait-il déjà que c'était au milieu du monde, hein?
Voilà, exact. Ça, c'est le caractère sous-jacent du questionnement. Mais là où ça a devenu intéressant, c'est quand je me suis aperçu que si je pose sur la carte, comme ça a été fait dans le son tout à l'heure, la distance entre le sommet de la Grande Pyramide et le centre géométrique de l'île de Pâques, la distance, c'est 10 000 km, c'est-à-dire le quart du périmètre terrestre, multiplié par le nombre d'or. Et là, le hasard, il a les bras qui lui tombent, là, il n'en veut plus. Il dit, petit drapeau blanc,
lâchez-moi un peu, lâchez-moi un peu.
Vous n'allez pas m'achever comme ça. Bon, et ça... Quand la chose a été faite, je me suis dit, c'est quoi ce cinéma? Et puis, par curiosité, j'ai prolongé et j'ai trouvé, donc, au début, j'ai trouvé 43 sites, parce que j'avais pas une culture non plus. Mais il se trouve que le hasard, là, il a des comptes à rendre, parce que j'ai été malade pendant 4 mois, je ne suis pas allé à l'école, et j'ai pillé littéralement la bibliothèque qu'à la maison.
Ouais.
Et j'ai donc, fait connaissance avec des sites qui étaient un peu partout sur la Terre. Et quand j'ai vu que ces sites que je venais de lire dans les bouquins se trouvaient sur cet équateur penché, alors là, je me suis dit, bon, je suis bon pour les petites maisons, on va m'enfermer, donc je me tais et on verra ça plus tard. Voilà.
Alors, justement, donc, votre enquête vous a mené sur l'île de Pâques. Dans un instant, on écoutera un extrait de ce documentaire, La Révélation des Pyramides. Ça réagit pas mal, hein, sur le Facebook. On a posté pas mal de photos également, hein, le pyramidion. On a posté pas mal de choses, hein, mon Elliot.
Oui, ça réagit beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'effectivement, ça peut pas être de la technologie humaine, et encore moins à l'époque. Et on a beaucoup de personnes qui pensent, malheureusement, que c'est tous les documentaires qu'on voit ailleurs sont encore vrais, que c'est possible.
Qui pourrissent en fait votre théorie. On revient dans un instant.
Alors,
vers
précision,
vous.
Ça n'est pas une théorie, c'est une démonstration qu'on propose, dont les premiers éléments font partie de ce film. Mais ça, c'est l'introduction.
Voilà, il y en a
simplement, on annonce
autres,
la couleur.
Hein.
Voilà, il y a encore 6 films, et à mon avis, toi, ça va pas te concerner, Patrice, non, mais ça décoiffe beaucoup plus que le premier.
Bon, restez avec nous, c'est Ado, c'est toute la vérité, et on vous dit ici ce que personne ne se dise. Oh putain, j'arrive plus à parler. Ne se dire ailleurs, c'est jusqu'à minuit.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les secrets d'État, les ovnis, les envoûtements, la réincarnation.
Bob vous dit toute la vérité sur Ado. Du lundi au vendredi, 21h minuit.
Allez, la révélation des pyramides. Allez, pour 20 minutes encore, on a Jacques Grimaud et puis Patrice Poyard pour ce documentaire incroyable sur lequel nous mettons un gros coup de projo. Je vous le disais juste avant la pause, votre enquête vous a mené sur l'île de Pâques. Écoutez.
Alors que les Moais regardent toujours vers l'intérieur des terres, cet alignement est pour une raison inconnue le seul sur l'île à être tourné vers la mer, et plus précisément vers l'ouest. Les sept perdus regardent à l'horizon du coucher de soleil des équinoxes. Ce qui n'a rien d'étonnant, car la capacité de ce peuple à se déplacer aussi précisément dans l'océan témoigne de connaissances astronomiques poussées.
Alors, oui, les connaissances astronomiques. Incroyable encore.
Bah, déjà, à la base, quand même, il faut dire, pour la découvrir, cette île, l'hypothèse officielle sont les Polynésiens qui ont fait 4000 km en pirogue.
Voilà, parce que je crois que c'est l'île la plus loin. Hein.
Elle est à 3700 km du Chili, la face ouest de l'Amérique du Sud, et à 4000 du reste des îles.
Il faut y aller.
Hein. Oui, et ça fait...
En pirogue, en plus.
La dimension la plus importante, c'est 25 km.
Ouais. Donc, c'est vraiment un grain de sable en plein milieu de l'océan. Et d'abord, ils la trouvent une première fois. Et puis ensuite, ils sont censés aller aborder la côte chilienne, monter dans les Andes. Ensuite, repartir de l'autre côté, retomber sur leur île. La trouver suffisamment intéressante et clémente pour s'y installer. Donc, repartir chez eux pour chercher la famille et tout le monde.
En pirogue, je vous rappelle.
Ils sont motivés, quoi. Puis après, comme ils n'ont pas que ça à faire, bah, ils fabriquent à peu près 1000 statues qui vont mettre un petit peu partout sur l'île, et puis c'est des statues qui ne leur ressemblent pas directement. Donc
non, parce que physiquement ça n'a rien à voir en plus.
Les autres questions qu'on ne se pose pas la plupart du temps, enfin moi je les ai jamais trouvées dans des bouquins, c'est dites donc comment les insectes, les oiseaux, les animaux qui vivent là-dedans sont venus.
Oui, parce que 4000 km c'est beaucoup, encore un oiseau encore.
Oui, mais
un insecte avec ses petites ailes.
Voilà. Oui, mais...
Alors les fourmis, on le sait par exemple, parce que elles sont venues du Brésil par un naufrage, etc. Mais il y a plein de choses sur cette île. C'est c'est vrai, et c'est vraiment isolé au milieu de nulle part. Donc, il y a plein de questions un peu. C'est assez troublant ce genre de questions, parce que c'est pas les questions qu'on se poserait tout de suite en arrivant là-bas.
C'est assez trou noir en fait.
Troublant, trou noir. Jacques va monter un spectacle très prochainement au théâtre de 10h. On risque de le retrouver à 20h.
C'est trop tard, 10h.
Bravo, monsieur, j'aime les blagues. Alors, bien sûr, quand vous êtes allé voir tous ces sites, il y a des points communs entre tous ces sites sur la planète.
On trouve de nombreux autres points communs entre tous ces sites, mais les principaux suffisent à semer le trouble. Une écriture hiéroglyphique ou idéographique. La momification des corps. Des concepteurs de calendriers. Un haut savoir astronomique. Des constructions résistantes au séisme. Aucune indication sur le comment et le pourquoi de ces réalisations.
Là encore, c'est assez marrant de voir que ces peuples ne pouvaient pas se connaître et qu'il y a tous ces points communs entre eux.
Qui sont énormes, parce que une construction antisismique, ça a l'air de rien, mais pour la fabriquer, soit on fait un mur et puis on attend qu'il y ait un tremblement de terre, et puis après le tremblement de terre, on regarde si ça a tenu ou pas, donc ça peut prendre du temps. Soit de l'autre côté, c'est la technique moderne, c'est-à-dire qu'on fabrique un mur et puis on met des explosifs très puissants dessous, on fait péter tout ça et puis on regarde.
On voit ce que ça fait.
Voilà. Et donc ils maîtrisent encore une fois, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent cette technique et ils les utilisent un peu partout, en Égypte, au Pérou, à l'île de Pâques. Et donc là, pareil, pourquoi ce besoin de fabriquer des choses antisismiques? Alors, l'hypothèse classique, c'est, ils ne le savaient pas, quoi. Donc, ils ont fait par hasard, et puis par hasard, c'est antisismique, donc c'est les seules choses qui restent, et tout le reste qui n'était pas construit de cette manière-là, ça s'effondre.
Et c'est d'ailleurs, dans le film, un architecte explique pourquoi, d'ailleurs, les pierres ne sont pas de même taille, hein. C'est ce qui permet de résister à tout cela. Hein.
Oui, parce que sinon, c'est...
Voilà.
Mais il y a la remarque du professeur Rosenberg qui dit qu'en effet, toutes les technologies ont échoué à se maintenir dans un endroit particulièrement sismique, c'est-à-dire les Andes. Alors l'autre problème qui n'est pas évoqué parce qu'il est un peu trop technique, ces pierres énormes qu'on voit à Sacsayhuaman, c'est-à-dire à 2800 mètres...
Au-dessus de Cusco.
Voilà. C'est des pierres qui vont jusqu'à peser 300 tonnes et c'est de l'andésite, c'est-à-dire à peine plus tendre que le silex. Quand même, il faut se remarquer. Et ils se donnent le luxe de faire ça bombé.
Bien sûr.
Pour le plaisir.
Ouais, voilà.
Bon, c'est des gens qui ne reculent devant absolument aucune dépense et toutes les difficultés leur point. Alors, je dis ça pour introduire le sujet extraterrestre. Diodore de Sicile, historien du 1er siècle, dit la curiosité la plus importante, lui qui avait visité quand même le site, il dit, c'est ça. C'est on voit d'immenses édifices posés sur le sable, mais on ne voit strictement rien autour. À cette époque, il n'y avait pas la ville, il n'y avait pas le Caire, c'était une bourgade, etc. Il dit, on dirait que ça a été posé par les dieux comme ça. Pof, on pose, on s'en va, c'est tout. Et c'est ça le mystère. La réalité, c'est que...
Est-ce que vous y croyez, vous, à l'hypothèse extraterrestre ?
Je pense que ça ne se pose pas en ces termes. Ah. Donc j'éviterai d'aborder ça. Je donnerai des preuves.
Après, dans les prochains films ?
Oui.
D'accord.
Je ne parle pas avant parce que je ne veux pas semer le bazar. Je veux que les gens prennent sérieusement le poids de ce qui est proposé et se disent... On va aider ces gamins-là pour avoir le suivant, parce que sinon, pas dit, nous sommes prudents. Patrice et moi, on a longtemps observé la situation du point de vue moral et psychologique. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai travaillé surtout avec Patrice.
Mais psychologiquement, vous deux là,
oui.
Quand vous travaillez sur ce genre de sujet. Alors toi, Jacques, ça fait 37 ans que tu es dessus, mais toi, tu as pris un peu le train en marche, ça fait 10 ans à peu près, hein,
c'est ça.
Est-ce que ça, tout ce qu'on t'a dit... Psychologiquement, est-ce que ça ne te remet pas quelque chose à l'envers? C'est toute ta vie en fait qui chamboulait quand on voit ça.
Si, moi j'ai saoulé tout le monde, tous mes amis pendant des années, parce qu'on disait surtout ce mec-là, le lancez pas sur les pyramides, sinon vous en prenez pour deux heures.
Ah mais depuis que tu sais que moi, depuis que je le filme, à chaque dîner je le dis. Putain, regardez ça, c'est juste incroyable.
Tout le monde devrait faire la même chose.
La chose c'est que voilà, j'ai fait ce film pour ça, parce que en fait je me rendais compte qu'en parlant, il fallait montrer des images, parce que les gens connaissent pas tout ça. Il y a des tas de gens qui parlent de l'Égypte et de la Grande Pyramide, mais ils connaissent pas le dixième des faits qui sont observables sur place, même de ceux qui sont donnés par les égyptologues. Donc voilà, moi j'ai fait ce travail, j'ai remonté mes manches parce que c'était la soif de comprendre, et puis parce que je cherchais une explication rationnelle à tout ça, et parce que je voyais bien que de part et d'autre, on navigue nous au milieu d'un côté des allumés New Age qui sont prêts à raconter n'importe quoi, qui puissent défendre leur théorie, parce qu'ils ont des théories différentes, et puis on a de l'autre côté les égyptologues dogmatiques qui sont enfermés dans leur truc. Donc c'est pas tous les égyptologues.
Oui. il y en a quand même, j'imagine, un peu d'ouvert.
Mais là, on a été contacté par des égyptologues, par des géologues, par des archéologues.
Il y a des voleurs.
Là, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie que dit Jacques. Non, il y en a plein. Il y en a plein qui nous ont contactés parce qu'en fait, la situation, elle est telle qu'elle est décrite dans le film. C'est beaucoup de politique aussi là-dedans. C'est-à-dire que si on s'écarte un peu des sentiers battus, on est considéré comme quelqu'un qui n'est pas sérieux. Et si un géologue se met à travailler sur l'hypothèse de machines utilisées il y a 3000 ans, tout de suite, on va se dire que ce géologue, il est en train de défendre l'hypothèse extraterrestre ou autre chose et qu'il ne mérite pas son titre de géologue, il ne mérite pas ses budgets, ses crédits. Et donc, il va être mis à l'écart. Et c'est pareil pour les archéologues. Il y en a un qui nous a contacté il n'y a pas tellement longtemps, qui a claqué la porte, alors que c'est un éminent archéologue mondial.
Ouais.
Il a claqué la porte de l'archéologie parce qu'il en avait ras-le-bol. Et que maintenant, il...
À ce point-là.
Ah oui, à ce point-là. Il dit, ça sert à rien, on peut pas travailler vraiment. Parce que c'est cloisonné, on est un peu... Je pense qu'il y a, il y a un film qui évoque vraiment bien la situation, c'est qui donne une bonne image de ça, c'est La Planète des Singes.
Ah.
La version originale de La Planète des Singes, elle montre un peu la situation telle qu'elle pourrait être. Je compare pas tous ces gens-là à des singes, hein. C'est pas ce que je veux dire, mais par analogie, c'est ce que ça montre. C'est-à-dire qu'il y en a qui savent et qui veulent pas parce qu'ils ont envie d'avoir le pouvoir, il y en a qui savent et qui veulent pas ouvrir parce que ça remettrait, ils sont très orgueilleux, etc., ça remettrait en cause tout ce sur quoi ils travaillent depuis des années. Mmh. Et puis il y en a qui savent et qui poussent, mais on leur donne pas de crédit, ils n'ont pas la parole. Mmh. Donc,
Alors, vous m'avez dit que vous aviez plein de problèmes pour distribuer le film, pour expliquer. Alors, je vous ai parlé d'un copain, enfin, mon demi-frère, qui est avocat.
Oui.
Il m'a juste dit, puisque je parlais des dîners à chaque fois que j'en parlais, il dit je confirme à chaque dîner pour le plaisir de tes potes. Donc, je dis ils veulent te voir pour des raisons de droit, il m'a dit à ta dispo. Donc voilà, je vous donnerai ses coordonnées.
Okay, bravo,
vous pourrez
Bob.
Aller le voir. Ben non, mais écoutez, je suis un
tu
homme de parole.
J'aime bien ce côté Julien Courbet. Hein,
Ah non, même si j'aime beaucoup Julien Courbet parce que c'était quelqu'un de très sympathique au demeurant.
Courbet les Chines.
Voilà, c'est Courbet les Chines.
Non, mais quel est le prénom de ton frère?
Alex.
Alex. Alors ça veut dire préserver en grec. C'est exact.
Et ben non. Eh bien, écoute, c'est Alex, je sais que tu écoutes Préservant nos relations.
Voilà. Alors, j'ai pas dit préservatif parce que toi, oui. Tu t'en manques des tifs.
Bon. Non, mais pour arrêter les blagues, je vous assure. Les blagues, c'est pas possible. J'ai jamais vu quelqu'un qui rebondissait aussi bien.
Si on veut donner une tension intellectuelle, il faut aussi soulager le.
Mais c'est, oui, mais c'est voilà. Ce que je fais dans cette émission. J'essaie aussi de mettre un peu de légèreté
la
parce
réalité,
que
sinon, c'est ça,
ce sont des gaz de l'esprit.
Oui, c'est ça.
Victor Hugo disait c'est la fiente de l'esprit qui vole.
Oui, c'est ça. Exactement. Alors, on voit bien sûr que les maths ont une importance colossale dans la construction de la pyramide de Gizeh. Écoutez-le.
Les bâtisseurs auraient donc travaillé avec une précision qu'ils étaient incapables de vérifier, car ils n'avaient pas les outils pour le faire. Comme pour les statues de granit de Louxor, dont on ne pouvait mesurer la symétrie qu'avec des moyens modernes.
Voilà, je vous rappelle qu'il est dit et répété dans l'histoire que ces gens-là ne connaissaient pas les mathématiques.
Ni l'écriture,
rien du tout.
Alors, ce qui complique pour le chantier quand même, parce qu'il faut coordonner des dizaines de milliers d'heures sans ordre écrit, etc.
Ce garçon pratique la litote.
Ouais.
Oui, c'est un peu compliqué.
C'est un chantier colossal. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais qui est vraiment importante, c'est la base, le socle de la Grande Pyramide qui à lui seul est un chantier colossal parce qu'on arrive, on a une montagne de calcaire, une colline qu'on va raser, on va laisser une espèce de bouton pression qui fait près de 7 mètres de haut, c'est ça, c'est, je ne sais plus quel est le volume par rapport à la Grande Pyramide.
7% justement.
7%. Et là-dessus, on va sculpter le sol pour lui mettre un dallage qui va s'étaler à peu près sur 60 000 mètres carrés, donc je fais la comparaison, c'est la surface à peu près de 6 terrains de football.
Plus que ça.
Et on fait un puzzle en 3 dimensions encore. Parce qu'on a des blocs qui s'encastrent parfaitement. Donc vous imaginez un rocher, mais qui n'est pas simplement mis à plat, il est sculpté, puis on met des blocs avec des formes très bizarres qui se répondent les uns les autres. Et on fait ça, c'est aussi plat, si on le mettait à l'échelle d'une fenêtre, c'est aussi plat qu'une vitre. Mmh. Et là-dessus, après, on va construire la Grande Pyramide. Mmh. Mais déjà ça, cette chose-là... Moi,
mais déjà,
il faut
20 ans pour faire ça.
Ouais,
déjà, il faut presque 20 ans pour faire ça.
C'est pas calculable, parce que la vérité, c'est que chaque pièce est unique. Chaque pierre a une forme unique. Si on retire une pierre, il faut faire les recherches pour la repositionner. Un pyramidion, c'est facile, c'est le sommet unique. Mais là, chaque pierre a sa forme. C'est pourquoi on trouve des pierres qui ont été extraites, mais qu'on ne pourra pas remettre tant qu'on n'aura pas retrouvé l'emplacement exact.
Il y a quelque chose qui revient aussi dans le documentaire et qui est assez rigolo, c'est ce petit dessin.
C'est Jean-Pierre Adam.
Non, Jean-Pierre Adam, on va l'écouter, c'est le son 17, Jean-Pierre. Pierre Adam, qui lui remet tout en question. Mais bon, c'est pas... le truc, c'est ce petit dessin à chaque fois. La voix, vous le dites très bien. Oui, mais on nous a montré ce petit dessin où on voit le tailleur de pierre avec son petit burin et sa petite boule.
Pas de sous-entendu.
J'ai dit sa petite boule, j'ai pas dit ses petites boules.
Le petit burin, moi, j'ai achoppé sur petit burin.
Jacques, est-ce que on peut imaginer qu'il y a eu d'autres dessins montrant autre chose qui ont été planqués?
Dessins maintenant.
Non, ces dessins, c'est des dessins modernes, parce qu'on n'a aucun dessin
rien
représentation.
De
non, on a la seule chose dont je me souviens pas ce que c'est exactement, c'est le transport d'une statue avec des cordes.
Oui.
Voilà, c'est la seule chose qui représente et qui fait dire qu'on a utilisé cette technique-là pour faire tout le reste. Mais a priori, sur la grande pyramide, on n'a rien. C'est ce que dit très honnêtement Guillemette Andreu, la conservatrice du musée du Louvre.
Et
Jean Leclan, qui est décédé depuis le pauvre, mais qui disent que effectivement à cette époque-là, en fait, on a beaucoup de choses sur les règnes récents, mais sur les premières dynasties, qui sont les plus énigmatiques, parce que c'est dans les premières dynasties qu'on trouve les constructions qui sont les plus massives.
Et qui sont la base de notre civilisation, vraiment.
Oui, alors c'est pareil, j'aimerais que tu dises quelque chose sur Jacques, parce que j'ai vu passer sur internet, il y a beaucoup de gens qui disent mais c'est pas vrai, à cette époque-là, le reste de la planète n'était pas en peau de bête. Donc il faut. Alors on parle de Sumer, on parle de Tatchou, on dit qu'il y avait d'autres civilisations, il y avait d'autres personnes qui avaient déjà des réseaux, des canalisations et tout ça. Donc il faut quand même remettre les choses dans le contexte.
Voilà. Le contexte, il est très simple. En effet, il y a eu des amorces de civilisation dans l'Indus, en Chine, à Sumer, tout ça, mais ce sont des centres, c'est-à-dire il y a des villes qui existent à cette époque-là. Sensiblement ce qu'on pourrait appeler des technologies, c'est-à-dire le tissage, la poterie, les éléments de base civilisationnelle. Cependant, globalement, en Égypte, il n'y a pas grand monde qui sache faire grand-chose, à part des grandes pyramides.
C'est ça
le problème.
Non, mais comme ils les font en 20 ans,
voilà. Non seulement ils font ça, si ce sont les Égyptiens, notez bien, parce que j'ai toujours été très réticent à l'égard de Patrice, j'ai dit, moi je ne veux pas entendre les Égyptiens ont fait les pyramides nulle part. Pour moi, c'est très clair et je le démontrerai ultérieurement. Non seulement on ne peut pas dire et affirmer, d'ailleurs Éric Gontier laisse entendre qu'il y aurait eu du réemploi potentiel de ces édifices, non seulement je ne dis pas dans mes écrits et dans le travail qu'on a fait d'écriture avec Patrice, nous deux seulement, que ce sont des Égyptiens qui auraient fait ça, parce qu'il est impossible de le dire, on ne peut pas, non seulement cela, mais je dis que ça n'est certainement pas le roi Khéops qui a commandé ça, et je le dis mais je le démontre. Alors évidemment les bouquins c'est 2 × 500 pages, c'est plus gros que les bouquins de machin là.
Quoique il y a Potter, ça fait 500 pages aussi.
Voilà.
Hein,
donc, c'est un peu plus ardu, et surtout que je donne la participation des textes anciens, des traductions, etc. Donc il y a vraiment de la matière. Les gens qui regardent et qui font des remarques, ils devraient les documenter, leurs remarques. Nous, on a donné l'essentiel grâce au talent de Patrice. On a pu faire des affirmations, mais les illustrer. Maintenant, le film, il renvoie à des notions, si je puis dire, triviales ou pratiquement triviales. Si quelqu'un pense qu'à l'époque des pyramides, tout le monde était civilisé sur Terre, c'est quelqu'un qui a le bras enfoncé dans l'œil depuis un bon moment. Voilà. Mais moi je suis prêt à toute controverse, hein. Moi j'envoie les documents en quantité industrielle.
C'est bien parce qu'il me donne l'occasion de parler de controverse, et notamment de Jean-Pierre Adam, qui est du CNRS, qui lui, moi à chaque fois que je le vois dans le film, il n'est pas d'accord.
Il serait évidemment tout à fait vain de chercher des rapprochements, des contacts culturels entre ces différents moments, ces différents lieux de l'histoire de l'humanité.
Voilà, donc ça c'est clair à chaque fois. Alors, et lui il dit, faut pas aller chercher midi à 14h.
Exactement.
C'est un peu ce que dit la voix off. C'est là, bon bah c'est parce que si c'est là, c'est que ça a existé.
Parce qu'en fait, il incarne, on l'a vu 3 fois, aucun propos n'a été sorti du contexte. Les interviews sont faites dans la longueur, on revient régulièrement sur les questions, on lui donne la possibilité de donner d'autres réponses. On se voit à des intervalles entre la première interview et la dernière interview, il va s'écouler 4 ou 5 mois. La chose, c'est qu'il c'est pas du tout la volonté, en tout cas ma volonté en tant que réalisateur, de ridiculiser cet homme. C'est
bien sûr que oui. Déjà, il prend le temps de vous répondre.
Voilà, c'est simplement, au contraire, et je le remercie pour ça, c'est simplement de montrer le son de cloche, un des sons de cloche de l'égyptologie officielle et la manière dont elle traite le dossier. C'est-à-dire qu'il va assez rapidement dans le mépris, dans le cynisme, dans le ridicule. Il n'hésite pas à tourner en dérision les choses. Et puis, il va de ses hypothèses et il projette les choses qu'il pense être vraies dessus, sans prendre la peine, et c'est ce que je lui reproche là, sans prendre la peine d'écouter, de confronter les faits qu'il a à d'autres. Parce qu'il dit par exemple que le fait qu'il reçoive assez régulièrement des propositions de dossiers de personnes qui pensent avoir résolu la construction de la Grande Pyramide montre la totale vanité de l'entreprise. Qui sont des phrases qui pour moi ne signifient pas grand-chose. Mais ça veut dire que puisque c'est des gens qui continuent de chercher, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé, oui c'est ça. Et si on n'a pas trouvé, c'est qu'on a un petit problème.
Ouais.
Oui, oui, Jacques me montre l'heure.
Bah oui, c'est
t'inquiète.
Fini,
non,
ah. Je vois que t'affiches est bien.
Non, non, mais on a presque fini.
Mais conclure, c'est mais, important.
Oui.
Avec des questions.
Je voulais juste revenir sur ce que disait Jean-Pierre Adam et ce que tu disais sur Jean-Pierre Adam, qui est effectivement, au moins après le soin, pas comme certains, de ne pas vous répondre. Lui, il a répondu. Mais la problématique, c'est que, bon, il est campé sur position, et c'est des positions qu'on apprend aussi à l'école. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est qu'on donne ça en histoire aux enfants.
Il bah, s'est assoupli.
Ça y est.
Ce qui m'a donné des documents relatifs à la pyramide de Meidoum, dont il avait fait le plan et tout, en me disant c'est le 10e de la grande pyramide. Et il n'est pas allé plus loin, parce que moi je n'ai jamais attaqué qui que ce soit quand on a interviewé, c'était moi généralement qui questionnais les personnes. Je n'ai jamais attaqué les personnes. En revanche, quand les faits étaient contradictoires, je montrais la chose et j'essayais de laisser un passage pour ne pas perdre la face, mais lui, c'est radical, il stoppe.
D'accord.
Voilà. Donc il a donné ses opinions qui sont celles qui représentent. Mais il y a pire que lui.
C'est l'establishment, tout ça.
Mais il y a pire que lui. Il y a pire que lui. Et encore, on a gardé de la matière parce qu'on a pensé qu'éventuellement, compte tenu de la raideur de ses positions et le caractère un peu cynique et ironique de l'emplacement qu'on donnait dans le film, il pouvait nous attaquer. Donc on a gardé quand même le plus gratiné au besoin s'il devait. Moi, je dis très clairement, et je pense que pour Patrice, c'est la même chose. Moi, j'estime beaucoup cet homme-là pour ses qualités humaines, pour sa culture, son intelligence. Ce que je regrette, comme le dit Patrice, c'est face aux faits, il montre qu'il est fermé.
Un peu de réticence, quoi.
C'est, voilà, c'est ça. Lui aussi, il commence à pratiquer la litote. C'est une maladie.
Alors, il est 22h58, on va bientôt se quitter. Juste avant de conclure, je vous rappelle qu'on a construit cet édifice incroyable, ces édifices, parce qu'il n'y en a pas qu'un, hein, quand même, et que les Égyptiens n'étaient pas censés connaître ça.
Pour tracer la grande pyramide, il fallait ajouter un cercle de la même longueur que le carré. Ça, c'était le rayon du cercle. Et en le relevant, on obtenait la hauteur exacte de la grande pyramide. Il ajouta que cet étonnant modèle mathématique était unique, car il était le seul à réunir le nombre pi et le nombre d'or.
Voilà, et aujourd'hui, on sait que les Égyptiens ne connaissaient pas les maths et ne savaient pas écrire. Voilà, on va peut-être s'arrêter là, maintenant. Juste, je voudrais, parce que je me suis fait insulter, je vous ai invité parce que c'est Giorgio, notre mentaliste, et c'est un pote qui m'a dit un jour, il faut que tu regardes ce film, et il faut que tu les invites. Il m'a dit, cite-moi bâtard. Voilà. Donc c'est fait, voilà. Mon Giorgio. C'est grâce à lui que vous êtes là aujourd'hui, et surtout parce que la qualité du film. Voilà, la qualité du film. Vous voulez peut-être une conclusion. Je vous laisse, allez, une minute pour conclure.
C'est difficile de conclure parce que ce film n'est pas une conclusion.
Moi, surtout qu'il y a la 6 autres qui arrivent derrière.
Ce que je vais dire là-dedans, c'est qu'évidemment, tout a été traité. Il y a une grande densité de faits, mais il y en a encore beaucoup plus que ça. Que rien n'a été laissé au hasard. Que c'est pas parce qu'on prendrait un fait en défaut que ça mettrait tout par terre. Et que donc, il faut regarder ça avec un esprit ouvert et simplement chercher à comprendre. Et quand on comprend pas, il faut se documenter. Parce que si on se documente, on peut trouver des réponses.
Être curieux, quoi.
Voilà. Être simplement curieux et ouvert. Parce que vraiment, moi, j'ai fait ce travail-là. Pendant presque un peu plus de 6 ans, j'ai fait ce travail-là d'aller vérifier systématiquement toutes les choses, et ce que j'ai découvert, c'est que ce que je montre dans le film. Donc voilà, c'est ce qui accompagne le travail de Jacques, qui est encore, je le dis, c'est la démonstration mathématique. Et ça, c'est une chose qui sera pas exposée dans les films, mais plutôt dans les livres, parce que c'est pas très sexy les mathématiques, mais voilà, c'est extraordinaire.
Ça dépend pour qui. Moi, je vais conclure très brièvement en disant, vous êtes la génération qui monte. On a tenté de faire notre travail, on est empêché actuellement par une sorte de zozo bizarre de comportement. Si vous voulez la suite, manifestez-vous. Demandez à vos profs qu'ils jugent sur pièce, ils ont le film, vous avez le film, ça se balade sur Internet. Alors méfiez-vous, il y a la version anglaise, vous la mettez à la
poubelle. Non, je dis toujours moi celle 1h48 française.
Voilà,
regardez.
La voix féminine, c'est ça qui garantit que c'est notre texte et pas un autre. D'une part, et donc faites du buzz, poussez les choses pour qu'on arrive à passer l'étape de la justice. Donc je répète, si vous avez dans votre famille...
C'est bon, t'inquiète pas, j'ai tout, il vient de me renvoyer un texto, mon pote.
Merci.
Tu peux évidemment leur donner mon numéro de téléphone. Voilà, je te le montre, le texto. Donc...
Alors il y a un bâtard et un demi-frère.
Voilà, exactement. Bâtard et demi-frère, mais je les aime tous les deux.
Encore 96 ans. Donc merci à tous d'avoir écouté 2 heures de bavardage autour de la révélation des pyramides, et votre sentiment exprimé, c'est est-ce que c'est vraiment une révélation? Ça m'aurait intéressé.
Ah ben moi je peux te le dire que c'en est une. Oui. Voilà, mais en même temps je ne suis que moi, je ne suis pas le temps de tout le monde. Bon, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Et puis j'aurai bien sûr le plaisir de vous recevoir, j'en suis persuadé, pour les autres opus et, que j'espère voir très vite. D'accord.
Et même pour celui-là, si tu nous réinvitais, on serait très heureux de partager.
Oui, parce qu'il y a plein d'aspects, bien évidemment, qu'on n'a pas encore abordé, qu'on pourrait. D'accord.
Et puis je suppose qu'il y aura plein de questions.
Exactement. Ouais, oui, bon, ça a beaucoup fait parler. D'accord. Merci infiniment, puis à très bientôt.
Et bonne nuit.
Ciao.
Retrouvez Bob sur les réseaux sociaux.
En podcast sur radofm.fr.
Et en best-of le dimanche sur Ado.
21h minuit.